matin, j'aimerais vous amener pendant quelques moments à Jérusalem. Qui veut y aller? OK. Je vous en prie, on va intervenir pour le midi. J'aimerais vous inviter à assister à une réunion à Jérusalem qui a eu lieu en 445 avant Jésus-Christ. Ça fait assez longtemps. Et d'abord, il y a cette parole du Seigneur qui dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et en 445 avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, Néhémie était revenu à Jérusalem et, avec l'aide des habitants, avait reconstruit la muraille. Parce que plus de 200 ans auparavant, la muraille de Jérusalem avait été détruite parce que Jérusalem a été envahie par les Babyloniens, ils ont tout détruit et tout ça. Et Néhémie a été envoyé par le Seigneur pour rebâtir la muraille. Ça, c'est important à l'époque d'avoir une muraille, et surtout à Jérusalem, une ville aussi importante. Et quand cela a été terminé, eh bien, voyez ce qu'ils ont fait. On va lire quelques versets, et ça vaut la peine. « Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et Esdras, qui était aussi prêt, a apporté la loi devant l'Assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'est le premier jour du septième mois. Esdras se lut dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema et tous les autres. Et puis on va la suivante. On peut vous épargner les noms, les prénoms si ça vous fait rien. Esdras ouvrait le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui. Et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple qui ont répondu « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel le visage contre terre. Josué, Bani et tous les autres, qui étaient lévites, expliquaient la loi au peuple et celui-ci était resté debout sur place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras, les lévites, qui donnaient les explications, ont dit à l'ensemble du peuple, « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. » En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ils ont ajouté, « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces, en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé. » Car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne soyez pas tristes. » L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres et s'adonner à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Le deuxième jour, les chefs de famille de tout le peuple ainsi que les prêtres et les Lévites se sont rassemblés auprès du scribe Esdras pour qu'il leur indique le sens des paroles de la loi. Une réunion spéciale qui s'est tenue à Jérusalem, et ce jour-là, ils ont redécouvert la parole de Dieu. Et c'était au septième mois. Les Juifs avaient deux calendriers, le calendrier religieux et le calendrier civil. Le septième mois du calendrier religieux correspondait au premier mois du calendrier civil. Et c'est le premier jour. En d'autres mots, ça pourrait correspondre pour nous au jour de l'an. Le premier jour de l'année, ils sont rassemblés de l'année civile pour eux. Le septième jour, septième mois pour l'année religieuse, sont rassemblés pour entendre la parole de Dieu. C'est une demande qu'ils ont faite. Ils voulaient entendre la parole parce que depuis un certain temps déjà, on ne sait pas combien de temps, ils avaient négligé la parole. Et Esdras était revenu, et ensuite Néhémie, et là, la ferveur est revenue à leur cœur. Le Seigneur a dit ceci, cette parole que j'ai lue tantôt, « Eux plutôt, ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. » À À quelle occasion est-ce qu'il a dit ça? C'est qu'un jour qu'il était avec une foule, il y a une femme qui s'est écrite dans la foule, « Heureuse la femme qui t'a porté, celle qui t'a allaité. » Parce qu'il faut savoir que pour une femme, avoir un fils ou des fils, c'était vraiment quelque chose de valorisant. Mais le Seigneur ramène les choses tout de suite à la bonne perspective. Je ne sais pas si cette femme-là voulait élever un peu Marie, il ne faut pas dire, mais heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. C'est ce qu'ont fait les Juifs à cette époque, et c'est ce qu'on est venu faire ce matin, frères et sœurs. Écouter la parole et la garder. Quoi de mieux que d'entreprendre une nouvelle année avec la parole du Seigneur, en entendant et en recevant cette parole de tout notre cœur. Il est dit qu'ils se sont rassemblés comme un seul homme. L'unité, c'est pas seulement d'être dans une même salle, mais l'unité, c'est celle qui est dans le cœur. N'est-ce pas? Dieu fait une chose extraordinaire. Lorsqu'on se convertit, on devient un enfant de Dieu. Et on se joint à une église, et tout à coup, on se rend compte qu'on fait partie d'une famille. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, qui fait en sorte qu'on devient un, les uns avec les autres. Qu'on a une communion avec ces gens-là qu'on n'a pas avec les gens du dehors. Le Saint-Esprit crée parmi nous une unité, mais nous avons une responsabilité, c'est de préserver l'unité, d'en prendre soin. De veiller à ce que rien ne vienne nous séparer, nous diviser. Que s'il y a quelque chose qui arrive avec un frère ou une sœur, qu'on puisse se réconcilier, se pardonner mutuellement, avoir du respect les uns pour les autres, s'apprécier les uns les autres. Ils étaient comme un seul homme. Que l'Église soit comme un seul homme en 2020 aussi. Qu'on puisse vivre cette unité, les uns avec les autres. L'unité de l'Église, frères et sœurs, c'est une force, c'est une puissance pour nous. Comme un seul homme. Et là, tous ceux qui étaient aptes à comprendre la parole, on la leur expliquait. N'écoutons pas seulement avec notre tête, mais avec notre cœur. Du temps de Jésus, beaucoup de gens ont écouté. Mais certains, c'est seulement avec la tête, mais le cœur n'y était pas. Mais écoutons avec le cœur ouvert, afin que cette parole tombe dans une bonne terre et qu'elle porte du fruit. Donc, ils étaient aptes à la comprendre. Ceux qui étaient en âge de la comprendre, même les enfants. C'est pour ça qu'on a des classes pour les enfants tout seul le dimanche. Parce qu'ils sont en âge de comprendre. Les petits-enfants peuvent se convertir, peuvent prier Jésus, demander des requêtes bien simples. Mais Dieu les entend et Dieu les voit. Écoutez la parole. Le Saint-Esprit nous révèle la parole de Dieu. Ça, c'est pas un livre comme les autres. Je ne sais pas si vous savez, hein? C'est pas un livre comme les autres. C'est un livre qui est rendu vivant par le Saint-Esprit. C'est une parole qu'on ne se lasse pas de lire, de relire, parce que Dieu nous révèle les choses au travers de cette parole. Elle nous fait du bien. Lisez-la, frères et sœurs. Lisez-la pour vous-même. Lisez-la en couple. Lisez-la en famille. Mais lisez-la. Ou écoutez-la. Faites en sorte que vous soyez proche de cette parole de Dieu. On va voir plus loin tantôt, on va en parler. Le livre des Proverbes nous dit ceci. Je vais vous lire deux versets du livre des Proverbes, que j'ai trouvé très intéressant. Vous les connaissez sûrement. À propos de recevoir la parole, il est dit au chapitre 4 et au verset 20. Mon fils ou ma fille, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car de lui viennent les sources de la vie. Qu'il ne se même pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Sois attentif à mes paroles. Dieu veut nous parler aujourd'hui, mais toute la semaine aussi. Parce que nous aurons sa parole. Il nous parle. Il se révèle à nous. Il y en a qui publient des versets sur Internet. Merci Seigneur, tant mieux. Alors, c'est le premier jour. Et ce jour-là, c'est la fête des trompettes. Il y avait plusieurs fêtes en Israël. Et cette fête-là, c'était un saint rassemblement, une convocation de se rassembler ensemble devant l'Éternel, se mettre à part pour Dieu. Ce matin, on a mis cet avant-midi à part pour Dieu, n'est-ce pas? Mais pour nous-mêmes aussi, parce que Dieu veut nous faire du bien. On se met à part pour le Seigneur. Et le dimanche matin, c'est une réunion très spéciale, mais toutes nos réunions sont spéciales, n'est-ce pas? Déjeuner des femmes, déjeuner des hommes, la jeunesse, les aînés, les enfants. Et chacune a un aspect particulier. Ici, c'est plus général le dimanche matin. Mais dans les rencontres de petits groupes sur semaine, les groupes connexion, ben, c'est plus intime. On a une communion les uns avec les autres. On apprend les uns des autres. Et là, le livre était ouvert de façon visible, nous dit l'Écriture. Eh bien, si Néhémie et Esdras avaient imaginé qu'un jour, on aurait un livre ouvert sur l'écran comme ça. Eux, il y avait seulement un rouleau qui déroulait. Maintenant, la Bible est à l'écran. C'est le progrès, tout simplement. Mais ils ont mis tout un avant-midi à part pour cela. Je vais vous dire, un avant-midi par semaine, se mettre à part pour venir à l'Église, c'est pas trop. C'est une nécessité. On a besoin de ça. On a besoin de mettre ce temps à part pour Dieu, pour nous-mêmes, pour se ressourcer dans le Seigneur, pour se charger, nous charger nos batteries, comme certains disent. Mais on a besoin de cela. Se mettre à l'écoute de Dieu. Mettre de côté de nos occupations et prendre le temps avec Dieu. Et le peuple a répondu comment? Amen, amen, en levant les mains. Ils ont honoré Dieu les mains levées. Je ne sais pas si c'est pour vous, c'est comme ça, mais moi, c'est quand je me suis converti, c'est devenu, pas parce que les autres le faisaient, c'est devenu comme automatique de lever les mains. Je ne sais pas pourquoi, mais on lève les mains. Et c'est une façon d'adorer Dieu, je pense. Parfois, on peut se prosterner aussi, ils l'ont fait. On peut se prosterner. Mais on se tourne vers le Seigneur. Il ne faut pas être pressé, mais prendre le temps avec Dieu. Prendre le temps vraiment de se placer dans la présence de Dieu. Et les scribes, les prêtres donnaient le sens de ce qu'ils lisaient, en accord avec les Écritures. On ne fait pas dire à la Bible ce qu'on veut, mais on fait dire à la Bible ce qu'elle dit vraiment. La Bible s'éclaire par elle-même. Bien sûr, il faut l'étudier, il faut la connaître, il faut l'approfondir, ce n'est pas tout le monde qui peut enseigner, mais lorsqu'on a pris cette formation-là, lorsqu'on s'est laissé façonner, transformer, mes frères et sœurs, on peut faire cela. Jésus a enseigné les Écritures, les apôtres l'ont fait aussi, et aujourd'hui encore, on le fait. Mais là, il y a une réaction spéciale. Et Esdras et les autres ne s'attendaient pas à ça. Plutôt que de se réjouir, ils sont mis à pleurer. On fait une petite parenthèse. Ne réprimez pas vos émotions. Si vous avez à cœur de pleurer, pleurez. Si vous avez à cœur de vous réjouir, réjouissez-vous. Dieu nous a créés avec des émotions. Et parfois, c'est bon de laisser exprimer ces émotions-là. Souvent, même, j'ai vu des gens dans leur premier pas de vie chrétienne souvent pleurer parce que peut-être qu'il y a un travail que cet esprit faisait dans leur cœur, je ne sais pas. Mais laissez ces choses sortir de vous-même. Ça fait partie de la vie, ça. Alors, ils ont pleuré. Pourquoi? Je crois que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas entendu la parole de Dieu et que leur cœur était vraiment touché. Peut-être ont-ils pris conscience qu'ils avaient négligé la parole du Seigneur, qui avait mis ça de côté, puis comme il avait négligé la muraille, négligé. Et là, tout à coup, Dieu parlait à leur cœur. Et plutôt que de se réjouir soudainement, bien, il y a peut-être aussi un sentiment de culpabilité d'avoir négligé. Peut-être que cette parole de la loi de Moïse qu'ils lisaient leur montrait à certains leurs propres péchés, leurs égarements. On ne sait pas exactement. La Bible ne le dit pas, mais il se passait des choses dans leur cœur. Et c'est bon qu'il se passe des choses quand on entend la parole de Dieu, frères et sœurs. Il y a eu un désir de se mettre en règle avec Dieu. Peut-être que c'est ça qui se fait ce matin pour vous. Laissez cet esprit agir en vous. Quand Jean-Baptiste a prêché, il annonçait la venue du Seigneur, il prêchait le baptême de repentance. Et les gens qui sont venus à lui ont dit, « Que devons-nous faire? » Jean-Baptiste disait, « Produisez du fruit digne de repentance. » Pas seulement une prière, pas seulement des paroles, mais agissez en conformité à la repentance. Alors, cette fête annuelle qui devait être une fête de réjouissance était d'abord une tristesse, mais une saine tristesse. Une tristesse qui amène à la vie, qui conduit à la réjouissance. Et parfois, Dieu fait des choses dans nos vies qu'on ne s'attend pas. Nous, on a un programme, mais cet esprit parfois a un autre programme. C'est bien comme ça. Parfois, on avance pour un besoin et Dieu veut rencontrer un autre besoin. C'est correct aussi. Soyons attentifs à ce que Dieu veut faire parmi nous, frères et sœurs. La joie et l'assurance du salut vont venir, mais parfois, il y a des larmes de repentance, mais c'est sain pour notre vie. Et alors, les prêtres, les scribes ont dit quoi? La joie de l'Éternel sera votre force. Merci, Seigneur. C'est une joie que le Saint-Esprit produit en nous. On a souhaité joyeuses fêtes à bien des gens ces jours-ci, puis les gens ont des fois beaucoup de joie, mais c'est pas toujours la joie du Seigneur. Cette nuit à 2 heures du matin, j'entendais des gens qui parlaient fort, qui criaient sur ma rue, là. C'était pas... Moi, ça m'a réveillé, ça n'était pas la joie pour moi. Puis eux autres, c'était pas la joie du Seigneur, c'était seulement d'autres choses. Mais la vraie joie, c'est celle que Dieu donne. C'est celle que le Saint-Esprit produit en nous. Une joie qui va être durable aussi. Que Dieu veut nous accorder de remplir nos cœurs de cette joie-là, malgré parfois les épreuves ou les tristesses, les choses difficiles qu'on peut rencontrer. Et là, ce jour-là, ils ont dit quoi? Partagez votre repas avec d'autres. C'est ce qu'on a fait durant le temps des fêtes. On a partagé avec d'autres, on a reçu du monde à manger, puis on vient partager avec d'autres. Je suis content de voir que le panier d'épicerie en arrière, il est plein. On partage avec d'autres aussi. Le bon samaritain, c'est pour aider ceux et celles qui en ont moins, et puis le permettre de passer, d'arriver un petit peu mieux pour ce temps-ci de l'année. La joie, le psaume 100 nous dit quoi? Je vous lis ce psaume-là, c'est un psaume qui est bien simple, une parole tellement importante. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur, a dit l'apôtre Paul. Réjouissez-vous. Le psaume 119 nous dit également, tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Je me réjouis de tes promesses comme celui qui trouve un grand butin. Nous avons une richesse, frères et sœurs. Ces instructions, ces promesses sont pour nous, et quelle richesse pour nos vies. Le deuxième jour, ils sont revenus et ont voulu entendre encore la parole de Dieu. Et Esdras a continué de les enseigner. Quand on veut entendre encore, c'est un bon signe. C'est un signe de santé spirituelle. Un signe qu'on veut grandir, qu'on veut progresser dans le Seigneur. Et ils ont tellement progressé comme cela, parce qu'il est dit ici, je vais vous retourner dans Néhémie, et le verset 18 nous dit ceci, parce qu'ils ont vraiment fêté, il y a la fête des tentes, et tout cela, puis on lit dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jusqu'au dernier. Pendant 7 jours, ils ont lu, comme ça, tous les jours. On célébra la fête pendant 7 jours. Il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Ils ne sont pas lassés, hein? Pendant 7 jours, ils lisaient la parole du Seigneur, puis ont voulu apprendre et connaître davantage encore. Il y a quelques années, il y a un sondage qui a été fait, je vais vous montrer à l'écran. Un sondage qui a été fait en 2013 auprès de 4500 répondants au Canada. Un Canadien sur 7 est un lecteur fréquent, à ce moment-là, en 2013, un lecteur fréquent de la Bible au moins une fois par semaine. 18% des Canadiens sont fortement d'accord que la Bible est la parole de Dieu. Mais en 1996, le même sondage disait que 35% des Canadiens étaient d'accord que cela était la parole de Dieu. En 2013, c'est rendu à 18%. 69% les Canadiens disent que la Bible renferme des contradictions irréconciliables. En fait, c'est parce qu'ils sont ignorants du contenu de la Bible. 64% des Canadiens croient que les écrits des principales religions enseignent essentiellement la même chose. J'ai déjà entendu ça dire, on a tous le même Dieu. Alors on croit que Bouddha, Mahomet, tout ce monde-là, c'est tout pareil. Et 6% des Canadiens parlent aux autres de la Bible en dehors des offices religieux au moins une fois par semaine. 6%, ça c'est pas beaucoup. Et finalement, la réflexion sur le sens des textes est une importante forme d'engagement envers la Bible. L'importance de lire, de réfléchir, d'approfondir les Écritures. Alors voyez-vous, il y a des choses qu'on est content quand 1 sur 7 qui lisent fréquemment la Bible ou une fois par semaine. Mais quand 69% disent que ça renferme des contradictions et les 64% qui croient que les autres écrits sont aussi valables, bien là, on a du travail à faire. C'est notre mission, d'annoncer l'Évangile aux gens, leur faire connaître qui est Jésus, frères et sœurs. Et je vais vous lancer un défi ce matin. Le défi de lire en 2020 au moins un chapitre par jour. Savez-vous combien il y a de chapitres dans la Bible? Quelqu'un le sait? Bonne question, hein? 1189. Okay. Je n'ai pas envie de le retenir, mais en tout cas, c'est ça. Si vous lisez un chapitre par jour, vous aurez lu 30% des chapitres dans l'année. Un chapitre par jour, c'est pas si long que ça à lire, mais ça nous entretient. Si vous en lisez plus, gênez-vous pas, là, c'est permis. Mais un chapitre par jour. Des fois, ça demande une petite discipline. Parce que la journée a passé vite. Ah, regarde ça, c'est rendu au soir, je n'ai pas lu. Bon, il faut me rattraper le lendemain. Mais essayez de voir, de maintenir ce rythme-là d'un chapitre par jour. Vous allez découvrir la Bible. Et puis, lisez une page après l'autre. Commencez par le Nouveau Testament d'abord, c'est le plus important. Mais lisez une page après l'autre. Et des fois, c'est bon de redécouvrir des choses et le Saint-Esprit va parler à vos cœurs. Il y a un premier ministre de la Grande-Bretagne du passé, William Gladstone, qui a déclaré ceci. Il dit, j'ai rencontré au cours de ma vie 95 hommes de grande valeur. 87 d'entre eux étaient de fervents lecteurs de la Bible. Quand même. Mais ça, c'est il y a 100 ans. C'est aujourd'hui, un peu moins que ça, je pense. 87 d'entre eux de fervents lecteurs de la Bible. Un ancien président américain, John Quincy Adams, au 19e siècle, a dit un jour, la Bible est le livre dont la lecture est indispensable à tout âge et en toutes circonstances. Ces hommes-là, ces dirigeants-là, reconnaissaient la valeur de la parole de Dieu, de la Bible, à combien plus forte raison pour nous aussi. Le livre des Proverbes au chapitre 22 nous dit quoi? Prête l'oreille à mes discours, applique ton cœur à ma science, je veux t'instruire aujourd'hui. 5 janvier 2020. Oui, toi, j'ai mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. Dieu veut nous enseigner. Dieu veut nous équiper, frères et sœurs. Alors, on a besoin de lire la parole. Ça va nourrir notre âme. Ça va nous aider à progresser dans la foi. D'ailleurs, le point suivant est celui-ci. Pourquoi lire la Bible? Eh bien, d'abord, pour notre plus grand bonheur. Qui veut être heureux? Tout le monde veut être heureux. Sans aucun doute. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit point. Oui, c'est ça. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Heureux cet homme-là, qui met la parole en pratique, qui la lit, qui la médite tous les jours. Il trouve un grand plaisir à cela. Un arbre qui va garder son feuillage même dans le temps de la sécheresse. D'ailleurs, Jacques a dit ceci aussi. Il dit, si quelqu'un veut être heureux, eh bien, qu'il mette en pratique la parole qu'il reçoit. Il va être heureux, celui-là. Alors, on a besoin vraiment de méditer, de la lire régulièrement, de la laisser pénétrer en nous. La parole, vous savez, elle fait une chose. Dès qu'on est né de nouveau, là, elle commence à travailler en nous, à nous façonner, à nous changer pour le mieux. Merci Seigneur. Deuxième point, elle est la seule vérité absolue. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous vivons dans une époque où chacun prétend avoir sa vérité. Toi ta vérité, j'ai la mienne, l'autre la sienne. Mais non, il y a une vérité absolue. Et c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit, Père, ta parole est la vérité. L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Alors, ce n'est pas une vérité parmi d'autres, mais c'est la vérité. Combien on doit y porter attention? Troisième raison. Une nourriture pour notre âme. Ésaïe écrit ceci. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents. Qui a mangé des plats succulents au temps des fêtes? Qui n'a trop mangé? Eh bien, nous avons des plats succulents dans la parole de Dieu. Des mets pour notre âme. Notre corps, c'est bon de nourrir, c'est nécessaire. Mais notre âme encore bien plus. Le corps va dépérir, mais l'âme va continuer de vivre. Combien on a besoin de se nourrir de cette parole-là? Et On ne se lasse pas parce que Dieu a toujours des choses nouvelles à nous donner, à nous révéler dans sa parole. Une nourriture pour notre âme. Les enfants d'Israël recueillaient la manne chaque jour pour nourrir leur corps. C'est une image de la parole de Dieu qui nous est donnée aussi, et de Jésus, pour nourrir notre âme aussi. Le pain quotidien. Il y a des lectures qui vous aident, même. Le pain quotidien, la bonne semence, ta parole... c'est quoi tu lis, Denise? Ta parole pour aujourd'hui, sa parole pour aujourd'hui, et bien d'autres, ça peut vous aider. Trouvez-vous des aides, mais lisez la parole, méditez-la. Quatrièmement, pourquoi? Connaître Dieu, on l'a dit. Cinquièmement, autorité, la parole est l'autorité suprême pour établir nos croyances, nos valeurs, notre mode de vie et nos priorités. Ça, c'est important. Nos valeurs, nos croyances. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais en même temps, ils veulent croire en d'autres choses. Puis, moi, j'ai une de mes sœurs qui est décédée aujourd'hui, elle était religieuse. Et elle était en Gaspésie, moi aussi, j'étais dans ce coin-là. Et quand elle était malade pendant 7 ans, elle avait un cancer des os. Et je suis allé la visiter à quelques reprises, là où elle était, à Saint-Anne-des-Monts. Et j'ai eu bien l'occasion de bien lui expliquer le salut en Jésus. Puis un jour, elle me dit, « Ah, Félix, a dit, t'es trop strict. » J'étais un peu déçu. Trop strict. C'est la vérité que je te dis, Madeleine. C'est pas autre chose. Parce qu'elle, ayant vécu toute sa vie comme religieuse, croyait qu'elle avait servi Dieu, mais je savais qu'elle n'était pas née de nouveau. Je ne sais pas si elle l'a fait avant sa mort, je ne peux pas dire vraiment. Ça me rappelle d'ailleurs une autre fois où on avait visité, quand on allait là, Denise et moi, on mangeait avec les religieuses à la cafétéria. Et puis, c'était facile de parler de l'Évangile avec elle. Et il y avait une religieuse qui était là, madame, elle a 70 ans au moins, très instruite. Puis on parlait de Jésus puis de la vérité. Et elle dit, mais qu'est-ce que la vérité? Je dis, j'étais plus ou moins surpris en fait. Toute sa vie étant religieuse, ne connaissant pas la vérité. On veut que les gens comprennent, on veut les éclairer, mais il ne faut pas faire plus que leur annoncer la vérité. Mais pour nous, cette vérité-là, eh bien, elle façonne nos croyances, nos valeurs, notre mode de vie, nos priorités. Et combien c'est important. Là, j'ai réalisé que j'ai passé le point 4. On revient en arrière. C'est dans l'une. Faut me le dire que je suis dans l'une. Hein, pour connaître Dieu, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Pour connaître Dieu. Je ne sais pas pour vous avant votre conversion, mais avant ma conversion, j'avais une notion très vague de Dieu. Croyant Dieu. D'ailleurs, je parlais, cette semaine, il y a un monsieur qui passait devant sur ma rue, et puis je suis en train de gratter la glace, et puis... Je commence à parler de la température, fait que c'est facile de commencer une conversation. Alors, il s'arrête, je ne connaissais pas. Et j'ai amené la conversation sur la foi en Dieu. Puis, monsieur me dit, « Oh, mon Dieu, la Bible, c'est écrit par des hommes, ça. »« Oui, mais des hommes inspirés de Dieu. » Ouais, puis là, il m'a amené toutes sortes d'arguments pour ne pas croire dans la Bible. Et finalement, mais je dis, « Si vous mourrez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous arrive? » »« Ah, tu meurs, moi, c'est le néant. » À 78 ans, il m'a dit, son 78 ans, je ne savais pas. Non, il y a autre chose après. Où on est avec Dieu, on est sans Dieu pour l'éternité. Mais pour lui, la Bible, c'était écrit par des hommes, puis il ne faisait pas s'arrêter à ça. Mais quand même, on est là pour leur témoigner, leur faire connaître qu'on le connaît et le Seigneur veut qu'on le connaisse vraiment. Se faire connaître à nous. Dieu, le Dieu créateur, il m'a dit qu'il voyait un être suprême. Ça, c'est déjà un bon point. Mais ça s'arrêtait là. Un Dieu créateur qui nous a mis sur terre pour un but précis, qui a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver, nous racheter, et le Saint-Esprit pour nous guider. Alléluia! Quel privilège nous avons de connaître le vrai Dieu, le seul Dieu, pas n'importe quel Dieu. Bon, OK, on va revenir à suivant. Et le cinquième point, la promesse d'une vie réussie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement, avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Réussir sa vie, c'est quelque chose qu'on veut, c'est bien ça. Mais réussir sa vie dans le Seigneur. Pas comme le monde, mais dans le Seigneur, avec les priorités du Seigneur. Cette parole-là était pour Josué. Et c'était une parole importante parce que Josué avait un grand défi devant lui, une grande responsabilité, un grand ministère devant lui. Mais il l'a fait. Il a médité la parole. Il a eu le succès. Frère et sœur, le succès, c'est pas toujours comme les gens pensent, mais le succès, c'est de marcher avec Dieu. Jour après jour, quoi qu'il arrive, de lui faire confiance. Dans l'épreuve, dans la santé, dans la maladie, dans la bonne santé, merci Seigneur. Peu importe Seigneur, je reste attaché à toi. Je vous dis ceci, il faut rester ancré à la parole de Dieu. Ça m'est revenu un verset que je cherchais, et puis je disais à Denise, où est-ce qu'on se trouve ce verset-là? Finalement, j'ai trouvé dans ma concordance. Et il est écrit ceci dans Hébreux. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elles. S'attacher aux choses qu'on a entendues de peur qu'on soit emportés loin d'elles. Le monde dans lequel on vit cherche à nous emporter loin d'elles. Laisse-donc s'en faire cette religion-là. Qu'est-ce que tu avais besoin? Il y a d'autres choses à faire dans la vie que ça, là. Loin d'elle. Si on est libre, si on laisse tomber un peu, on s'est entraîné par un courant et on s'est emporté. Comme un fleuve qui nous emporte. On est à contre-courant en tant que chrétien. À contre-courant, il faut nager, il faut lutter, mais le Saint-Esprit nous aide. Alléluia, les bons nageurs. On avance avec lui. Pour réussir sa vie, surmonter les difficultés. J'ai retrouvé dans un dossier une réflexion intéressante. Qui a un téléphone cellulaire ici? Okay. Il est fermé? Oui? Okay. Je n'ai pas entendu sonner encore. Quelqu'un a écrit une réflexion, comparer la Bible au téléphone cellulaire. Qu'est-ce qui se passerait si nous traitions la Bible de la même manière que nous traitons notre téléphone? Si nous transportions la Bible dans notre bourse, à la ceinture ou dans la poche de notre veste? La Bible, le téléphone cellulaire, il est là. Hein? Si nous y mettions un coup d'œil plusieurs fois par jour, combien de fois par jour? 5 fois? 10 fois? Ça sonne, ça. C'est... Hop, un petit signal qui clignote. Hop, il y a quelque chose qui est rentré. Ouais, quelqu'un qui m'écrit. Un appel? Un texto? Ça marche. Si nous retournions le chercher, la chercher, quand nous l'avons oublié à la maison ou au bureau. Et mon téléphone cellulaire, j'ai besoin. OK. Si nous l'utilisions pour envoyer des messages à nos amis, on envoie des messages, des versets. Si nous la traitions comme nous, si nous ne pouvions plus vivre sans elle, ne tu qui se lève la nuit pour regarder s'ils ont des messages? Non. Mais des fois, ça sonne la nuit. Si nous l'amenions en voyage, au cas où nous aurions besoin d'aide ou de secours. Si nous y mettions la main en cas d'urgence. Contrairement au téléphone cellulaire, la Bible a toujours du réseau. C'est vrai? Parce que si tu t'en vas dans le bois, dans la Mauricie, là, en haute Mauricie, ça ne marche plus. Il n'y a plus d'onde là. Nous pouvons nous y connecter dans n'importe quel endroit. Nous n'avons pas besoin de nous soucier du forfait parce que Jésus a payé la facture. Vous trouvez ça bon? Et puis, forfait illimité, hein? Les textos, les appels, tout ce que tu veux. Là. International. Encore mieux! La communication n'est jamais coupée et la batterie est chargée pour la vie entière. Où est-ce que j'ai mis mon chargeur? Où est-ce que j'ai mis mon... Quand mes enfants viennent à la maison, ils butent un fil de quelque chose, d'une tablette, d'un téléphone. Mais si on traitait notre Bible comme un téléphone cellulaire, qu'on y prêtait autant d'attention et d'intérêt, Dieu veut nous parler. D'ailleurs, quand quelqu'un vous appelle, moi, écoutez, ce matin, je vois mon téléphone, j'avais un texto. Mais c'était une attrape, finalement. Je savais que c'était une attrape. J'ai supprimé ça. Mais à tout moment, on nous envoie quelque chose. Si on ouvrait notre Bible aussi souvent que ça. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? As-tu une parole pour moi? Peut-être une parole pour quelqu'un d'autre? Pourquoi pas? Mais qu'on laisse Dieu, qu'on y consacre plus de temps un peu. Ces choses-là sont bien, mais sont tellement accaparantes. Mes petits-enfants, au temps des fêtes, là, ils ont entre 13 et 5 ans. Et la plupart sont sur les tablettes, ils sont en train de pitonner quelque chose. Il faut que les parents mettent des stops quelque part. C'est bien accaparant. Mais si on était aussi attentionné avec la Bible, avec la parole du Seigneur, pour la méditer, pour la connaître, pour chercher à connaître Dieu, pour se présenter le dimanche matin aux réunions, puis entendre ce que Dieu veut nous dire, à louer le Seigneur, l'adorer ensemble. Frères et sœurs, ça c'est le vrai succès de la vie. Ça c'est la vraie réussite. Ça c'est le vrai sens de la vie. Avant ma conversion, j'ai cherché le sens de la vie dans bien des choses, j'ai pas trouvé. Mais quand j'ai connu vraiment qui est le Seigneur Jésus, là j'ai su le vrai sens de ma vie. Je ne sais pas que je deviendrai pasteur un jour, ça c'est d'autres choses. Mais pour moi, l'important, c'est de connaître vraiment la vérité, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais cette vie-là, ça finit pas, ça n'a pas de fin. On progresse tout le temps. Merci Seigneur. On ne devient pas blasé à 65 ans, maintenant c'est fini. Non, avec Dieu, ça continue tout le temps. On progresse tout le temps. Il y a des défis nouveaux devant nous autres. Même des fois, si ça ne nous tente pas, il veut nous faire sortir de la zone de confort un peu. Merci Seigneur. L'apôtre Jean avait peut-être 100 ans qu'il a écrit l'Apocalypse. Alors, Dieu a des choses pour nous autres en 2020. Je ne sais pas lesquelles, mais Dieu sait. Mais si on veut marcher avec Dieu, on peut être étonné de ce qu'il va faire en nous et au travers de nous aussi. Amen. Dieu veut faire de grandes choses, je suis convaincu de ça. Dieu est un grand Dieu, un Dieu puissant et merveilleux. Les enfants d'Israël à Jérusalem l'ont adoré, ils se sont réjouis ensemble. Merci Seigneur, on a redécouvert ta parole, tellement content maintenant, Seigneur, de marcher avec toi, qu'on puisse en faire autant nous aussi à Shawinigan. J'invite les musiciens à venir. Je vais finir par un dernier chant ce matin, mais on va prier aussi. Fermons nos yeux, maman, si vous voulez. Seigneur, on reconnaît que tu as légué un grand trésor, une grande richesse qui est là à la portée de nos mains. Que ce soit une Bible en papier, que ce soit sur un téléphone, mais Seigneur, tu as légué un grand trésor. Seigneur, je prie ce matin que dans cette nouvelle année qui débute, qu'on ne soit pas négligent, comme l'ont été les enfants d'Israël, mais Seigneur, que on soit prompt à lire, à écouter, à recevoir ta parole chaque jour, afin de nourrir notre âme, Seigneur, de se laisser guider par toi aussi. Tu dis que tu veux nous instruire, tu veux nous montrer la voie à suivre, autant sur le plan individuel, le travail, la famille. Alors, Seigneur, on va être hâte à ton écoute. On veut dire comme le petit Samuel disait, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Oui, Seigneur, parle à nos cœurs durant cette nouvelle année, jour après jour, afin que, comme Samuel, qu'on ne laisse pas tomber ta parole par terre, mais qu'on la garde précieusement dans nos cœurs, et qu'on puisse marcher avec toi, Seigneur. Oui, ô Dieu, je prie, Seigneur, que tu te révèles aussi. Seigneur, révèle ton salut à ceux et celles qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore fait ce pas de foi, d'engagement, de se tourner vers toi. Et pendant qu'on a les yeux fermés ce matin, je me demandais ceci, qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore pris cette décision d'ouvrir son cœur au Seigneur Jésus pour le pardon de ses péchés, pour avoir la vie nouvelle et la vie éternelle. Peut-être que vous connaissez des choses au sujet de Dieu. Le Seigneur frappe à la porte de votre cœur aujourd'hui parce qu'il veut être en communion avec vous. Pouvez-vous le laisser entrer? Si c'est votre cas, levez la main, j'aimerais prier pour vous. Il y a quelqu'un ici ce matin qui veut dire, Seigneur, moi je t'ouvre mon cœur, je veux te laisser entrer dans ma vie pleinement. Alors Seigneur, tu connais nos cœurs à chacun. Révèle-toi, ô Dieu. Révèle-toi, Seigneur, d'une manière plus intime encore que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Viens, Seigneur, réveiller en nous, ô mon Dieu, une passion pour toi, un amour pour toi, ô Dieu, un engagement, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'on ne soit pas des chrétiens tiers en 2020, mais des chrétiens entiers. Des chrétiens entiers, pas à cheval sur une clôture, mais du bon côté de la clôture, avec toi, ô Dieu. Oui, Seigneur. Viens, Seigneur, raviver nos âmes, mon Dieu. Ravive-nous comme tu as ravivé les enfants d'Israël à Jérusalem, à cette époque-là. Seigneur, que ton Église soit une Église vivante, agissante dans ces temps de la fin, ces jours difficiles dans lesquels on vit, oh mon Dieu, de corruption et de perversion de toutes sortes. On appelle le mal bien et le bien mal. Seigneur, oui, qu'on soit là comme des lumières pour éclairer ces ténèbres, comme le sel pour donner la saveur, ta saveur à ce monde, oh Dieu. Oui, c'est en ton nom que je prie, Seigneur. Amen. Levons-nous ensemble pour chanter, si vous voulez.